Bonjour, chers lycéens, lycéennes et auditeurs et auditrices qui êtes de plus en plus nombreux à écouter ce cours d'histoire-géographie pour les terminales. Juste un mot sur l'émission d'hier. La Grande-Bretagne, le Danemark et la République d'Irlande, l'AIR, sont entrés dans la CE en 73 et non en 1963. Aujourd'hui, le thème est gouverner la France depuis 1946. Gouverner, c'est-à-dire, c'est à la fois parler du régime politique, de son organisation, mais aussi de la vie politique de la République française. C'est l'histoire de 75 ans de démocratie qu'il faut ici relever, en 20-30 minutes. Donc j'irai à l'essentiel pour définir ici les grandes évolutions de notre démocratie et de son fonctionnement. En 1944-1946, la France métropolitaine vit la libération de l'occupant et du régime collaborationniste de Vichy. Le gouvernement provisoire de la République, créé à Alger, entre à Paris avec la deuxième DB et restaure la République et les libertés individuelles et collectives avec comme premier acte civique et politique le droit de vote des femmes. Si la résistance est unie pour fonder une sécurité sociale ou le maintien de ses colonies, seule preuve de la puissance française dans un pays ruiné, elle est divisée sur le régime démocratique de la future République. D'un côté, le général de Gaulle veut un pouvoir présidentiel fort, mais les autres résistants sont pour un régime parlementaire. En 1946, les Français optent par référendum pour la Quatrième République. La Quatrième République est un régime parlementaire. Le gouvernement est dirigé par le président du Conseil, c'est-à-dire l'actuel Premier ministre. Le président nomme les membres de son cabinet en fonction des partis qui entrent dans sa coalition, c'est-à-dire une union de partis au Parlement. La Chambre des députés est en effet élue au suffrage universel direct à la proportionnelle. Le Sénat, quant à lui, est élu au suffrage indirect par les conseils municipaux. Il y a trois grands partis pivots sous la Quatrième République. Le Parti communiste, qui représente quand même près d'un quart du corps électoral, mais qui sera élu de tous les gouvernements à partir de 1947 du fait de la guerre froide avec l'Union soviétique. La SFIO, le Parti socialiste, qui est le véritable parti pivot de cette Quatrième République, et le MRP, c'est-à-dire les démocrates chrétiens, qui sont un peu un équivalent du centre-droit. Et avec ceci, nous avons aussi des petits partis comme l'UDSR de François Mitterrand. Aucune majorité n'est possible pour aucun parti du fait du scrutin à la proportionnelle. Les coalitions se font soit au centre-droit, soit au centre-gauche. C'est le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des députés et le Conseil de la République, c'est-à-dire le Sénat, qui élisent le président de la République pour 7 ans. Que ce soit Vincent Auriol ou René Coty, les présidents ont un pouvoir purement représentatif. Bien qu'ils président le Conseil des ministres, qu'ils soient encore chefs des armées, ils conservent seuls le droit de grâce et nomment les ambassadeurs. Les républicains souhaitent limiter les pouvoirs personnels. Le Parlement est donc supérieur au président. La Quatrième République est marquée par une instabilité des gouvernements. Il y a un jour de crise ministérielle sur 9 jours. En 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés d'une durée de vie de 1 jour à 16 mois au maximum. Les coalitions se font et se défont au gré des circonstances et des envies ou des ambitions des hommes politiques. La troisième force, c'est-à-dire la réunion de la SFIO plus du MRP, c'est-à-dire des démocrates chrétiens, centrale dans les coalitions, s'est érodée au fur et à mesure des problèmes qu'a subi la Quatrième République. On retrouve des personnalités dans toutes les coalitions, comme par exemple Maurice Schumann aux Affaires étrangères, François Mitterrand à l'intérieur ou garde des Sceaux. L'État est administré par des hauts fonctionnaires de plus en plus formés à l'ENA, créé en 1945, et des fonctionnaires qui assurent la continuité de l'État malgré les crises ministérielles. Cet État est centralisé. Tout est décidé à Paris et transmis au département par les préfets. Au niveau local, la vie politique est dominée par les municipalités et les départements n'ont qu'un pouvoir consultatif. La Quatrième République est sous bien des aspects une réussite. La reconstruction du pays se fait rapidement du fait du plan Marshall, mais aussi de la nationalisation du charbon, de l'électricité avec EDF, du gaz avec GDF et de la planification politique de reconstruction. Le 1er décembre 1949, les Français en finissent avec les tickets de rationnement. L'État-providence promis par la résistance se met en place. La scolarité se développe et absorbe les enfants du baby-boom. L'âge de fin d'études obligatoire passe de 13 ans à 16 ans. La sécurité sociale est assurée par la construction des hôpitaux et des différentes administrations liées à la sécurité sociale. La recherche est développée par le CNRS fondé par André Laugier. Seul point noir, le mal-logement est dénoncé par l'ancien résistant l'abbé Pierre dans son appel du 1er février 1954. C'est donc pendant la 4ème République que se fait aussi les débuts de la construction européenne, dont j'ai raconté hier les étapes essentielles. La 4ème République s'effondre avec la décolonisation. La défaite en Indochine en 1954 avait déjà été un premier avertissement. La guerre qui s'installe en Algérie, avec notamment les appelés du contingent qui sont priés d'aller en Algérie pour maintenir la paix, sonne le glas de la 4ème République. Et c'est en Algérie que naît la 5ème République, puisque l'armée, les pieds noirs et les musulmans réclament le retour du général de Gaulle pour mettre fin au conflit. De Gaulle revient donc en 1958 avec son idée de pouvoir présidentiel. La 5ème République. Là, je m'adresse particulièrement aussi aux élèves de Terminale S, puisque votre programme commence avec la 5ème République en 1958. La 5ème République, donc, je vais la diviser en deux parties. La première partie, 1958 à 1981. De Gaulle instaure à partir de 1958 un pouvoir présidentiel fort. En effet, le président est au sommet de la pyramide des pouvoirs. Il est élu par tous les Français depuis 1962 pour 7 ans. En 1965, ce sont les premières élections nationales qui lui donnent un statut supérieur à tout autre élu. Pourquoi ? Parce qu'il peut se présenter comme l'élu de tous les Français sur l'ensemble des territoires français, qu'ils soient métropolitains ou d'outre-mer. Ce qui le met en supériorité face à n'importe quel élu qui n'est élu que de sa circonscription ou de la commune. Le président obtient des pouvoirs qu'aucun chef de l'État démocratique n'a. Il nomme le Premier ministre, il a le droit de grâce, il est le chef des armées avec le pouvoir nucléaire. Par l'article 7, il peut cumuler tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires en cas de menace grave, mais bien sûr ceci est contrôlé par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il est enfin chef de la diplomatie, c'est son précaré. Il a l'initiative du référendum. Le président décide et le Premier ministre exécute. Les premiers ministres lui sont soumis, ou ils démissionnent comme Jacques Chirac sous Valéry Giscard d'Estaing, ou sont démissionnés comme Michel Rocard avec Mitterrand. Le gouvernement fait des projets de loi. Le Parlement a un pouvoir restreint. Lui, il peut proposer une loi. Il vote cependant les budgets, détermine de nouveaux droits. Il est le lieu de débats démocratiques, comme par exemple la mixité scolaire à partir de 1965, le droit à l'IVG en 1975. Le régime politique semble stable, mais les mouvements de contestation sont nombreux. N'oublions pas mai 68, qui remet en cause l'autoritarisme du général de Gaulle, mais aussi un gouvernement qui contrôle la société, les médias, et n'améliore pas les conditions de travail. Les mouvements féministes revendiquent les droits à l'égalité et leur application. Droit à l'IVG, salaires égaux, accès à tous les métiers. La France continue sa modernisation malgré la crise économique qui commence en 1973. Les présidents Pompidou et Végeu changent le style présidentiel, mais pas le régime en soi, ou alors à la marge, comme Valéry Giscard d'Estaing avec le droit de vote à 18 ans en 1974. De 1981 à 2020, c'est le temps des ruptures et des changements. En 1981, la gauche, Parti socialiste, Parti communiste français, Parti des radicaux de gauche, arrive au pouvoir. François Mitterrand, qui s'était opposé au général de Gaulle en 1958 puis en 1965, ne change en rien les pouvoirs du président de la République. Ce qui change, c'est la décentralisation. Les régions sont créées autour de capitales régionales, villes privilégiées déjà sous De Gaulle. Elles s'occuperont d'infrastructures routières, scolaires, culturelles. Le département reste et s'occuperont dès lors de collèges et d'infrastructures départementales. Les communes devront aussi se développer avec des mises en commun, les CIVOM. C'est une démocratie plus locale qui est donc mise en place à partir de 1980 avec des élections régulières. Après les nationalisations de 80 à 83, viennent le temps des privatisations. Et l'État se désengage de l'industrie, comme avec Renault, des infrastructures, comme avec les autoroutes, à un rythme plus ou moins soutenu selon le gouvernement et les manifestations de citoyens. Les médias, dans ce temps, sont de plus en plus libres du pouvoir politique, mais de moins en moins du pouvoir économique. Le fonctionnement de l'État, lui, il est de plus en plus européen. Depuis 1992 et la fondation de l'Union européenne, les présidents parlent le plus souvent entourés de deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau européen. C'est très clairement sur la photo officielle du président depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. L'ENA a été transférée de Paris à Strasbourg pour bien inscrire le caractère primordial de l'Europe pour les hauts fonctionnaires français. Les universités sont de plus en plus jumelées avec d'autres universités européennes. Et même au niveau des établissements scolaires, qu'ils soient professionnels ou d'enseignement général et technologique, de plus en plus de jumelages se font. Les entreprises, elles, sont de plus en plus sur un marché européen et de plus en plus intégrées de façon européenne. Ce tournant européen est confronté à une opposition souverainiste de droite et ou d'extrême droite, au nom de l'histoire et de l'indépendance, et à gauche ou l'extrême gauche, au nom d'un manque de dimension sociale dans la construction européenne, mais aussi de l'indépendance nationale. Ce clivage entraîne un clivage en 2005 entre partisans et opposants à la Constitution européenne qui s'accroît avec les crises économiques et sociales. Je terminerai par une démocratie qui se cherche encore. L'année 2000 est pour cette raison très importante dans l'histoire politique de notre démocratie. Premièrement, parce que le mandat présidentiel a été ramené à 5 ans. Ce pour éviter des cohabitations droite-gauche avec un président à droite et un premier ministre à gauche ou l'inverse. La deuxième chose, c'est que, et le deuxième principe, c'est un principe politique. Qui est arrivé à partir de 2000, c'est-à-dire celui de la parité homme-femme en politique. Cette parité homme-femme en politique est une avancée. En 2012, elle est étendue au conseil d'administration des grandes entreprises et en 2014, elle est étendue à tous les secteurs de la vie sociale du pays. Elle donne donc un pouvoir aux femmes qui est complètement nouveau. La crise économique s'étendant à partir de 2008 et ne trouvant pas de solution politique, les présidents sont de plus en plus la cible de procès en légitimité, et ce qui interdit aussi leur réélection, comme c'est par exemple le cas pour François Hollande. Cette méfiance pour les chefs de l'État se propage sur toutes les strates de la vie politique, pour le député, pour le sénateur, pour le maire, pour le conseiller régional. Ceci se voit par la montée inquiétante du taux d'abstention à toutes les élections. Ceci se voit aussi par une violence politique nouvelle à l'encontre d'élus, mais aussi par des mouvements sociaux d'une autre ampleur, comme celui des Gilets jaunes à partir de 2019, et qui montre clairement le malaise social, économique et politique que vit la Ve République. Ceci s'est vu par la défaite de deux partis pivots de la vie politique depuis les années 70, c'est-à-dire le Parti socialiste et la droite républicaine, au profit de mouvements nouveaux comme En Marche ou de l'extrême droite comme le FN, Rassemblement National, et l'émergence à gauche des Insoumis et des Verts réclamant une autre République. En conclusion, je dirais que notre démocratie a connu deux républiques depuis 1946. La Ve République en 2020 ne ressemble plus à celle du général de Gaulle. Certains aujourd'hui désirent une Sixième République, plus rééquilibrée, alors que d'autres veulent un pouvoir plus centralisé et encore plus fort. Le débat est ouvert. Seul compte le respect des valeurs inscrites dans les constitutions et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, mes chers élèves, ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui sur le thème de la gouvernance française. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne continuation à tous et à jeudi sur la gouvernance mondiale depuis 1944.